Regardez, il y a un espion parmi nous. Ce bordereau le prouve formellement.
C'est insensé.
Il nous faut trouver cet agent de l'étranger. Le cercle des recherches est restreint. Il s'agit certainement d'un officier d'état-major ayant accès au dossier secret du ministère.
Le coupable que nous cherchons est passé dans tous les bureaux du ministère.
Ça peut pas faire de mal.
Bien sûr, il faut chercher parmi les stagiaires des officiers de l'état-major récemment brevetés. Ce sont les seuls qui passent dans tous les bureaux.
Le colonel Fabre connaît personnellement tous les stagiaires. Il y en a un qui l'a mal noté à la fin de l'année dernière.
Quel est le nom de ce capitaine ?
Alfred Dreyfus.
Dreyfus. Un juif.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le jour commençait à poindre. L'immensité de la cour de l'école militaire fournissait une scène idéale pour un grand spectacle. Elle résonnait au son des tambours, des clairons, des sabots de chevaux, des jurons, des injonctions et des bruits de bottes. Tandis qu'au loin, derrière les grilles, des gens se tenaient debout sur les bancs, sur le toit des voitures et des omnibus. Ils étaient des milliers rassemblés ce matin-là dans la boue gelée. C'est en les voyant que je compris ce que Mercier, le ministre de la guerre, avait saisi depuis le début. À savoir que le désir humain d'assister à l'humiliation de l'autre formerait toujours une protection amplement suffisante contre le froid le plus intense. Le bruit produit par cette foule était contenu mais menaçant, pareil à la respiration d'un animal puissant, calme pour le moment, mais susceptible de devenir dangereux à tout instant. Un homme qui se tenait près de moi me glissa « Remarquez, commandant Picard, les Romains jetaient les chrétiens aux lions, nous leur servons des juifs ». C'est un progrès, me semble-t-il. Le moment crucial se rapprochait, et l'on sentait la tension se renforcer sous le ciel blême et sinistre. À 9h, alors que l'horloge commençait à sonner, un commandement retentit.
« Garde à vous ! Portez armes !»
Les bottes de 4000 soldats claquèrent à l'unisson. Au même instant, à l'angle droit de la cour, un groupe de 5 silhouettes surgit. Les petites formes indistinctes se précisèrent en une escorte de 4 artilleurs encadrant le condamné. Ils avançaient d'un pas vif, marchant avec une telle régularité que leurs pieds droits frappaient le sol en cadence avec les coups de l'horloge, tous les 5 pas exactement. Le prisonnier ne trébucha qu'une seule fois et se reprit aussitôt. L'écho du dernier carillon se dissipait lorsque la troupe fit halte et salua. Roulement de tambour, sonnerie de clairon. Un greffier s'avança et brandit un document devant son visage, tel un héros dans une pièce de théâtre. La proclamation battait dans la brise glacée, mais la voix de l'homme parut étonnamment forte, émanant d'un personnage si petit.
Par un jugement du 22 décembre 1894, le conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, officier stagiaire à l'état-major des armées, coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison.
Celui qui s'apprête dans ses pages à faire le récit de la dégradation publique d'Alfred Dreyfus en ce matin glacé des premiers jours de l'année 1895, c'est Georges Picard. Héros quelque peu oublié de l'histoire, il est celui du roman que le Britannique Robert Harris a consacré en 2014 à ce qui reste l'un des plus grands scandales politiques et judiciaires dans notre pays. Dans un thriller historique palpitant qui porte pour titre la lettre D, il revisite en effet avec une acuité extrême les 12 années que dura l'affaire Dreyfus depuis le point de vue de cet homme, Georges Picard, militaire de carrière, promu chef de service secret à tout juste 40 ans. Il fut le premier à découvrir la preuve de l'innocence du capitaine déporté de l'île du Diable et le seul à mener envers et contre tous le combat pour la vérité. Connu notamment pour The Ghostwriter, qu'il a adapté au cinéma avec Roman Polanski, Robert Harris est un ancien journaliste passé maître du roman d'espionnage. La scène d'ouverture que nous venons d'entendre, véritable pièce à grand spectacle, orchestrée par le ministre de la guerre de l'époque, met d'emblée les projecteurs sur les thèmes majeurs du roman. À l'artifice d'une affaire montée de toutes pièces par les plus hautes sphères politiques sur fond de populisme crasseux, à la manipulation de l'opinion et à la raison d'État, vont s'opposer la probité et le goût absolu de la justice d'un seul homme. Nous parlerons sans doute aujourd'hui d'un lanceur d'alerte du début du XXe siècle. Georges Clemenceau le disait autrement en son temps, Dreyfus était la victime, Picard le héros. En attendant l'adaptation cinématographique du roman, toujours par Polanski, entrons ce soir dans la vie de ce héros à travers une histoire d'espionnage aux échos malheureusement contemporains. Glissons-nous à nouveau dans la tribune où notre narrateur est installé parmi les hauts gradés de l'état-major pour assister à la dégradation militaire du capitaine Dreyfus 2 mois et demi après son arrestation. La mécanique est parfaite, la mise en scène grandiose. Cela fonctionne sur tous, civils et militaires, y compris sur Georges Picard, qui, comme nous allons le constater, malgré son regard distancié, cède alors, comme tout le monde, au pouvoir de l'opinion. Voici comment il relate la scène, tandis qu'en rompant le silence glacé de la cérémonie, le général qui mène la parade prend la parole. Nous sommes dans la cour de l'école militaire, aux grilles de laquelle se presse une foule immense. Alfred Dreyfus, vous êtes indigne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Le condamné dut lever la tête pour regarder celui qui s'adressait ainsi à lui. On avait pris son pince-nez et il portait des lunettes sans monture. Je demandai à emprunter la lorgnette de mon voisin. Je la mis devant mes yeux et vis un géant. Un adjudant de la garde républicaine portait les mains sur Dreyfus. L'adjudant arracha à mouvement rageur les épaulettes et tous les boutons de la tunique, les galons dorés du képi et les manches. Puis il s'agenouilla et supprima la bande rouge de son pantalon. Le visage de Dreyfus était inexpressif. L'homme regardait droit devant lui, alors qu'on le tirait d'un côté puis de l'autre, se soumettant à ses outrages tel un enfant qui se laisse habiller par un adulte irritable. Enfin, l'adjudant tira le sabre du condamné de son fourreau, planta l'extrémité de la lame dans la boue et la brisa d'un coup de botte. Le condamné baissa les yeux sur les symboles lacérés de son honneur. Puis il entama sous escorte le long tour de la cour Morland, paradant en guenille devant le front des régiments alignés, afin que chaque soldat pût à tout jamais se rappeler le sort que l'armée réserve aux traîtres. À plusieurs reprises, il lança « Vive la France ! Je jure que je suis innocent !» Ce qui lui valut les quolibets et les cris de « Judas ! Traître ! Et sale juif !» de la part de la foule. Toute la scène parut interminable, alors qu'à ma montre, elle ne dura guère plus de 7 minutes. Lorsque Dreyfus passa devant notre tribune, je ne pus détacher mon regard de cet homme. Que ce fût à cause des 3 derniers mois passés en prison ou du froid mordant de cette matinée, son visage avait pris un aspect bouffi et une teinte grisâtre qui évoquait la texture des asticots. Privé de ses boutons, sa tunique noire pendait lamentablement sur sa chemise blanche. Ses cheveux rares formaient des épis et j'y distinguais quelque chose de luisant. Son pas était aussi ferme et rythmé que celui de ses gardes. Il tourna les yeux dans notre direction et son regard croisa brièvement le mien. Je vis alors jusqu'au fond de son âme et reconnus la peur animale, le combat intérieur qu'il menait pour ne pas s'effondrer. Tandis que je le regardais s'éloigner, je pris conscience que ce qui luisait dans ses cheveux n'était autre qu'un crachat. Il ne lui restait plus qu'une étape à franchir, mais il s'agissait à n'en pas douter de la partie la plus pénible de son parcours, longer les grilles devant la foule. Les gendarmes formaient une chaîne pour contenir la masse, mais lorsque les spectateurs virent le prisonnier approcher, ils se ruèrent en avant. Le cordon policier ploya, libérant un flot de protestataires qui se déversa sur la chaussée et se répandit le long des grilles. Dreyfus s'arrêta et leur fit face, pour leur crier quelque chose en levant les bras. Mais il me tournait le dos, aussi ne pus-je entendre ses paroles, et ne perçus-je que la clameur familière qui lui fut renvoyée au visage. « Judas, traître et mort aux Juifs !» Son escorte finit par l'entraîner et le poussa vers la voiture cellulaire qui attendait avec un détachement de cavaliers. On lui passa les menottes, main derrière le dos. Il monta dans la voiture. Les portes furent claquées et verrouillées, les chevaux fouettés et le cortège s'ébranla. On sonna le clairon, on fit rouler le tambour. Il se mit à neiger. J'éprouvais un immense soulagement. Je crois qu'il en avait de même pour nous tous. Spontanément, nous nous tournâmes les uns vers les autres et nous serrâmes les mains. C'était comme si un corps sain venait d'éliminer quelque chose de néfaste et de pestilentiel. Et la vie pouvait enfin reprendre.
Je revois la cour de l'école militaire dans ce matin de janvier brumeux et froid.
Jean-Joseph Renaud.
Les assistants, rangés sur les côtés, étaient surtout des anti-juifs notoires. Quand le condamné eut disparu, Ce fut dans un silence angoissé, dans une sorte de stupeur, que le public s'écoula.
Ce récit, le commandant Picard le fait au ministre de la guerre, lequel l'a missionné à cet effet. Retrouvons-le au soir de cette cérémonie. Depuis son lit, il se remémore les événements de la journée dans un monologue intérieur plutôt satisfait. C'est l'occasion de faire plus ample connaissance avec notre héros et de découvrir ce qui le motiva à embrasser une carrière militaire. Né en 1854, il semble que son destin fût appelé à croiser celui d'Alfred Dreyfus. De 5 ans son aîné, il est d'origine alsacienne comme lui. Il a pour spécialité la topographie qu'il a enseignée à Dreyfus à l'École supérieure de guerre de Paris, avant de le retrouver à l'état-major du ministère de la guerre où il est aujourd'hui responsable des stagiaires. J'avais 16 ans quand les Allemands bombardèrent Strasbourg, redonnant ainsi le privilège d'assister personnellement à un événement que l'on présente à l'École supérieure de la guerre comme la première utilisation à grande échelle de l'artillerie lourde moderne dans le but précis de réduire une population civile. J'assistais à l'incendie du musée des Beaux-Arts et de la bibliothèque municipale, vis tout le voisinage se faire pulvériser, m'agenouiller auprès d'amis agonisants, aider à dégager des gens que je ne connaissais pas des décombres. Au bout de 9 semaines, les troupes se rendirent. On nous donna le choix entre rester sur place et devenir allemand, ou renoncer à tout et nous faire exiler en France. Nous arrivâmes à Paris sans ressources et débarrassés de toute illusion quant à la sécurité que pouvait apporter un mode de vie civilisé. Avant l'humiliation de 1870, j'aurais pu devenir professeur de musique ou chirurgien. Après, toute autre carrière que l'armée eût paru frivole. Le ministère de la guerre finança mes études. L'armée devint mon père. Le mien est mort lorsque j'avais 11 ans. Et aucun fils ne déploya plus d'efforts que moi pour plaire à un père exigeant. Je compensais ma nature rêveuse et portée sur les arts par une discipline de fer. Je sortis 5e sur 304 de l'école militaire de Saint-Cyr. Je parle allemand, italien, anglais et espagnol. J'ai combattu dans les Aurès, en Algérie, et remporté la médaille coloniale, puis sur le fleuve Rouge, au Tonkin, où je reçus l'étoile des Braves, la croix et la médaille du Tonkin. Je suis chevalier de la Légion d'honneur, et aujourd'hui, après 24 ans passés sous l'uniforme, j'ai été distingué par le ministre de la guerre ainsi que par son chef d'état-major. Couché dans mon lit, alors que le 5 janvier 1895 devient le 6, la voix qui résonne dans ma tête n'est pas celle d'Alfred Dreyfus proclamant son innocence dans la cour de l'école militaire, mais celle d'Auguste Mercier, le ministre de la guerre, me laissant pendant notre entretien espérer une promotion. « J'ai été impressionné par le discernement dont vous avez fait preuve durant toute cette sale affaire, commandant Picard. Cela ne sera pas oublié. » La nature rêveuse et portée sur les arts dont Georges Picard vient de parler va jouer un rôle déterminant dans sa promotion. Parallèlement aux événements qui scellent le destin du capitaine Dreyfus au début du roman, de son arrestation à sa déportation sur l'île du Diable, Robert Harris nous relate l'ascension d'un militaire encore jeune puisque notre héros est à l'aube de ses 40 ans et ambitieux. Célibataire et sans enfant, il vit dans un deux pièces du 16e arrondissement de Paris. C'est un homme lettré, cultivé, qui apprend le russe, lit Tolstoï, Dostoïevski ou Proust et fréquente les salons artistiques parisiens. Découvrons les quelques rendez-vous politiques qui vont mener Picard à la direction du service des renseignements français. Premier rendez-vous avec le ministre de la guerre, le général Auguste Mercier, la soixantaine et le visage buriné qu'il retrouve dans son bureau au lambris gris-bleu. Nous sommes à la mi-décembre 1894, peu avant le procès du capitaine, dans les actuels locaux du ministère de la Défense, l'hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique. 2 mois après l'arrestation de Dreyfus, je fus convoqué par le général Mercier. Il était assis à son bureau, posa les coudes sur la table et parla d'une voix calme et assurée. « Vous vous intéressez à la littérature, me semble-t-il. » J'hésitais. C'était le genre d'aveu qui, dans l'armée, pouvait ruiner une perspective de promotion. « Il n'y a pas de quoi avoir honte, commandant. Je cherche simplement quelqu'un qui puisse me faire un rapport qui ne se limite pas aux faits bruts. Vous pensez pouvoir y arriver ?»«
Je l'espère, cela dépend naturellement du sujet. » »«
Voilà donc ce que j'attends de vous. Je veux, commandant Picard, que vous assistiez chaque jour au procès, que vous veniez me rendre compte chaque soir de ce que vous avez vu. Je n'attends pas juste, il a dit ceci, il a dit cela. N'importe quel secrétaire connaissant la sténographie peut y arriver. » « J'attends de vous ce qui touche à l'essentiel, » dit-il en frottant son pouce contre son index. « Décrivez-moi les choses comme un écrivain. Dites-moi comment sonne l'accusation. Observez les juges. Étudiez les témoins.
Je ne peux assister moi-même au débat, cela donnerait à toute l'affaire une dimension politique. Vous devrez donc être mes yeux et mes oreilles. Vous pourriez faire cela pour moi ? Oui, mon général, dis-je, j'en serais honoré. Je quittais le cabinet de Mercier en affichant l'expression solennelle appropriée, mais dès que j'arrivais devant le palier, je portais la main à mon képi pour saluer le portrait de Bonaparte. Une mission spéciale du ministre de la guerre. Ce n'était pas que cela. Je devais être ses yeux et ses oreilles. Il m'a choisi parce qu'il voit en moi ce qu'il appelle le genre littéraire. Il a faim de détails, de réflexions, de commentaires, de couleurs. Je dévale l'escalier de marbre, un grand sourire aux lèvres. S'agit-il donc de mettre en fiction le réel pour contribuer à une mythologie nationale ? De manier l'art de raconter des histoires pour manipuler l'opinion publique ? C'est en tout cas ce que Robert Harris induit avec saveur dans l'extrait suivant. Retrouvons nos deux protagonistes, Auguste Mercier et Georges Picard, quelques semaines plus tard dans ce même bureau. Ils sont assis près de la cheminée alors que le ministre est préoccupé par cette grande question. Où enfermer le capitaine Dreyfus ? Mercier se dirige vers un grand globe terrestre sur pied installé près de son bureau et me fait signe de le rejoindre. Il chausse une paire de lunettes et, tel un dieu myope, scrute la terre. Je dois l'envoyer quelque part où il lui sera impossible de parler à quiconque. Je ne veux pas risquer qu'il transmette d'autres messages de trahison. Et ce qui est tout aussi important, je ne veux pas qu'on puisse communiquer avec lui. Le ministre pose une main étonnamment délicate sur l'hémisphère nord et fait tourner doucement le globe. L'Atlantique défile. Mercier immobilise la sphère et désigne un point sur la côte sud-américaine, à 7000 km de Paris. Puis il me regarde et lève un sourcil, m'invitant à deviner. « La colonie pénitentiaire de Cayenne, dis-je ? » ?»«
Tout près, mais plus sûr que ça. »«
L'île du diable, » précise-t-il en se penchant pour tapoter le globe. À 15 kilomètres de la côte, la mer tout autour est infestée de requins. La forte houle et les courants puissants rendent même l'accostage en bateau difficile. Je croyais que cet endroit était fermé depuis des années. Il l'était. Ces derniers occupants ont été des forçats infectés par la lèpre. Il va me falloir l'accord de la chambre, mais cette fois je l'aurai. L'île sera rouverte expressément pour Dreyfus. Alors, qu'en pensez-vous ? Ma première réaction est la surprise. Mercier, qui a épousé une Anglaise, passe pour un républicain et un libre penseur. Malgré tout, il émane de lui quelque chose du fanatisme d'un jésuite. « L'île du diable, me dis-je. Nous sommes censés nous trouver à l'aube du XXe siècle, pas du XVIIIe. »
« Alors, répéta-t-il, votre avis,
cela ne fait-il pas un peu trop ?» Je choisis mes mots avec soin, désireux de rester diplomate. « Dumas. »«
Dumas ? » Qu'entendez-vous par Dumas ?
Seulement que cela évoque un châtiment tiré d'un roman historique. J'entends comme un écho de l'homme au masque de fer. Dreyfus ne va-t-il pas devenir l'homme de l'île du diable ? Cela ferait de lui le prisonnier le plus célèbre du monde.
Précisément, s'écrie Mercier qui se donne une claque sur la cuisse en une rare démonstration d'émotion. C'est précisément ce qui me plaît dans cette idée. L'imagination du public sera captivée.
Pourquoi ? Pourquoi cette mise au fer, commandant ? Depuis 17 mois que je suis ici, j'ai toujours suivi strictement toutes les consignes qui m'ont été données.
La mise au fer n'est pas une punition. Elle n'est pas non plus de mon fait. C'est une mesure de sécurité imposée par Paris. Sur ordre du ministre des colonies, je suis désormais obligé de vous enfermer nuit et jour. Plus de promenades extérieures, double boucle de nuit. Le périmètre autour de la case sera entouré d'une palissade. La remise de lettres et de colis sera désormais interrompue jusqu'à nouvel ordre.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
La Loire a quitté la palisse. Maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville, on n'est plus. bateau de chien qu'on mène crevé dans une île. Mais on aura pareil la belle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre corps de coquin. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la belle.
Georges Picard sera finalement nommé chef du bureau des statistiques, nom officiel pour camoufler les services secrets au ministère de la guerre. Si les hommes politiques sont les scénaristes de l'histoire en train de s'écrire, Robert Harris compose quant à lui un roman historique avec virtuosité, donnant vie et caractère à des dizaines de personnages. Voici notre héros convoqué chez le général Charles-Arthur Gonse, patron de tous les services du contre-espionnage de l'armée. Appartenant à cette génération de militaires hantés par la peur du spectre allemand depuis la déroute de 1870, celui-ci est par ailleurs caractérisé par une appétence certaine pour le cognac et les cigarettes. Alors qu'il sonne à son domicile en ce dimanche 6 janvier 1895, le commandant Picard ne sait pas encore que son destin va basculer. C'est un tout autre personnage que l'homme que j'avais croisé la veille dans les bureaux du ministère qui vient ouvrir. Il n'est pas rasé, ses yeux sont pochés et cernés par l'épuisement. Sa tunique, ouverte jusqu'à la taille, révèle un maillot douteux. Il m'accueille un verre de cognac à la main.
Picard, c'est très aimable de venir.
Pardonnez-moi de ne pas être en uniforme, mon général.
Aucune importance, nous sommes dimanche, après tout.
Je le suis dans son appartement obscur, nous nous asseyons. Il allume une nouvelle cigarette au mégot de la précédente avant de jeter celui-ci dans la calotte de fusée d'obus qui lui sert de cendrier. Il me sourit. Et au regard qu'il lance à la carafe, je devine qu'il a désespérément envie de boire un autre cognac. Mais il ne veut pas avoir l'air d'un ivrogne devant moi. Il s'appuie contre le dossier du canapé et, me dévisageant à travers un nuage de fumée, me déclare
« Vous avez fait une très bonne impression au ministre Picard par votre conduite tout au long de cette sale affaire Dreyfus. Le chef d'état-major a apprécié aussi. Vous avez de toute évidence acquis une expérience précieuse du contre-espionnage au cours des 3 derniers mois. Nous avons donc l'intention de vous recommander pour une promotion. » Nous pensons vous proposer la direction de la section des statistiques. Je tente de dissimuler ma consternation. L'espionnage est un sale boulot. Tout ce que j'en ai vu concernant l'affaire Dreyfus m'a confirmé dans cette idée. Ce n'est pas pour cela que je suis entré dans l'armée. J'objecte. Mais la section ne dispose-t-elle pas déjà d'un chef très efficace en la personne du colonel Sander ?
Sander est malade, il a besoin de repos. Et maintenant, Picard, pardonnez-moi, mais étant donné la nature des informations secrètes que vous aurez à traiter, je dois vous poser une question. Y a-t-il quoi que ce soit dans votre passé ou dans votre vie privée qui puisse vous rendre vulnérable au chantage ?
Non, répondis-je, pas que je sache.
Vous n'êtes pas marié, me semble-t-il ?
Non.
Des raisons particulières à cela ?
J'aime la solitude et je n'ai pas les moyens d'avoir une épouse.
C'est tout ?
C'est tout.
Des problèmes d'argent ?
Pas d'argent, dis-je en haussant les épaules. Pas de problème.
Bien.
Commande Gonse, visiblement soulagé. C'est donc réglé. Ma consternation s'accroît encore quand je prends conscience que mon destin a déjà été scellé. Pourtant, je lutte contre mon destin, mais je ne connais rien à l'espionnage.
Allons, mon cher Picard, s'exclame Gonse. Vous avez toutes les qualités requises pour le poste. Où est le problème ?
Il est vrai que cette unité n'a pas d'existence officielle. Il n'y aura ni parade, ni mention dans les journaux. Vous ne pourrez parler à personne de votre travail.
Cependant, tous ceux qui comptent sauront exactement ce que vous faites. Vous aurez quotidiennement vos entrées auprès du ministre et bien sûr, vous serez nommé lieutenant-colonel, ajoute-t-il en me scrutant d'un regard perspicace.
Quel âge avez-vous ?
40 ans.
40 ? Il n'y a personne dans toute l'armée qui en soit à ce grade à cet âge.
Réfléchissez. Vous pourriez être général bien avant d'avoir 50 ans et après cela...
Vous pourriez être chef de l'état-major, un jour.
Gonse sait exactement comment me prendre. Je suis ambitieux, même si cela ne me dévore pas, j'espère. Je suis bien conscient qu'il y a autre chose dans la vie que l'armée. J'aimerais néanmoins pousser mes dispositions le plus loin possible.
Je fais un rapide calcul. 2 ans à un poste qui ne me plaît pas beaucoup, mais au bout de ce temps, des perspectives en or. Ma résistance faiblit, je me rends. Quand cela pourra-t-il se concrétiser? Je ferai ce que l'armée veut que je fasse. Je vous suis reconnaissant de la confiance que vous m'accordez. Je m'efforcerai d'en être digne. Nous trinquons à mon avenir. Nous trinquons à l'armée. Puis Gonce me reconduit. À la porte, il me pose la main sur le bras en un mouvement paternel. Je sais que vous ne considérez pas l'espionnage comme une discipline militaire, Georges, mais c'en est une. À notre époque, c'est même la première ligne. Nous devons combattre les Allemands chaque jour. Ils sont plus puissants que nous en hommes et en matériel. Aussi devons-nous être plus performants en matière de renseignement. Son étreinte sur mon bras se resserre avant de conclure d'un ton sentencieux. Il est aussi vital pour nous de démasquer un traître comme Dreyfus que de gagner une bataille. Voici donc notre homme, le désormais lieutenant-colonel Picard, devenu un homme de l'ombre, s'installant dans les bureaux quelque peu miteux du renseignement de l'armée, leurs armoires métalliques peuplées d'archives. Il découvre les risques du métier. Très rapidement, il découvre un document devenu historique. Un télégramme, le Petit Bleu, récupéré par un agent secret dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne. C'est par ce biais que son attention est attirée sur l'officier français, Esterhazy. Au fil de l'enquête, Picard découvre que Dreyfus a été inculpé sur une fausse preuve. Un bordereau dont Esterhazy est en fait l'auteur.
Je conclus, mon général. Premièrement, la culpabilité d'Esterhazy est démontrée. Deuxièmement, le bordereau est de sa main, pas de celle de Dreyfus.
Alors on se serait trompé? Le dossier Dreyfus reste clos.
Mais c'est impossible, mon général. Esterhazy est un traître, un espion.
Ce n'est pas la preuve. Pour l'instant, c'est un officier de l'armée française.
Mais un innocent est condamné à sa place.
Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable?
Mais puisqu'il est innocent...
Ce sont des considérations qui n'entrent pas en ligne de compte.
La seule considération qui m'intéresse, c'est l'innocence de Dreyfus.
Innocence? Si vous ne dites rien, personne ne le saura.
Je ne sais pas ce que je ferai. Mais je vous préviens, je ne garderai pas ce secret pour moi.
Vous emporterez ce secret. Tous les secrets. Ou bien vous serez brisé. Exilé! Comme Dreyfus!
Picard est soudain écarté de l'affaire et envoyé à l'étranger. Retrouvons-le à Paris lors d'une permission exceptionnelle. Il trouve refuge chez sa sœur et réussit à convoquer son ami d'enfance, l'avocat Louis Leblois, à qui il révèle pour la première fois la vérité. Picard confie les preuves en sa possession à celui qui va le défendre jusqu'au bout, jusqu'au péril de sa vie. Écoute, Louis. Avant d'aller plus loin, il faut que tu saches que le simple fait de tenir cette conversation avec moi pourrait te mettre en danger. Physiquement en danger? Non, je ne crois pas. Je suis sûr que non, mais professionnellement, oui. Politiquement aussi. Et ça pourrait devenir très destructeur. Louis me regarde, sourcils froncés. Je poursuis. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'une fois que tu auras commencé, je ne peux pas te promettre quand cela pourra finir. Et tu dois en être bien conscient dès à présent. Oh, vas-y, Georges, et dis-moi de quoi il est question. Bon, si tu en es sûr. J'appuie les pouces sur les fermoirs et ouvre la valise. C'est difficile de savoir par où commencer. Tu te souviens de la dernière fois que je suis passé te voir pour t'annoncer que je partais? Oui, pour quelques jours, enfin c'est ce que tu as dit. C'était un piège. D'abord, commençais-je en sortant un tas de papiers du double fond de la valise, l'état-major m'a envoyé en province pour des procédures de renseignement en m'interdisant de repasser par Paris. Tu vois, dis-je, toutes ces lettres que j'ai conservées sont de mon supérieur hiérarchique, le général Charles-Arthur Gonce, qui a commandé chacun de mes déplacements. De Nancy à Besançon, puis à Marseille, Lyon, puis on m'a envoyé en Algérie, et ensuite en Tunisie. Tout à coup, il ne s'agissait plus d'une mission d'inspection, mais d'une affectation permanente dans les colonies. On voulait me punir. Mais te punir de quoi? Je prends une profonde inspiration, j'ai encore l'impression de prononcer un sacrilège en le disant tout haut. D'avoir découvert que le capitaine Dreyfus est innocent. Je donne à Louis le pli qui doit être remis au président de la République si jamais je mourrais. Il fait la grimace en lisant le libellé sur l'enveloppe. J'imagine qu'il le juge un peu mélodramatique, le genre de procédé que l'on trouve dans les romans policiers de gare. J'aurais pensé la même chose jusqu'à il y a un an. À présent, j'en suis venu à considérer que les romans policiers contiennent plus de vérité que tout le naturalisme social de M. Zola. J'allume une cigarette pendant qu'il sort la lettre.
Il lit à haute voix le paragraphe d'introduction. Je, sous-signé Marie-Georges Picard, lieutenant-colonel du 4e d'infanterie coloniale, anciennement chef des services secrets du ministère de la Guerre, certifie sur l'honneur la véracité de l'information suivante, que dans l'intérêt de la justice et de la vérité, il est impossible d'étouffer ainsi que l'on a tenté de... Sa voix se perd. Il fronce les sourcils, puis lève les yeux vers moi. Il reprend sa lecture silencieusement cette fois. Combien de copies existe-t-il de cette lettre? Il n'y a que celle-ci. Bon Dieu, un seul exemplaire. Et tu l'as gardé sur toi depuis la Tunisie? S'écrie-t-il en secouant la tête avec consternation. Bon, avant toute chose, il faut commencer par en faire au moins deux copies. Qu'as-tu d'autre dans ta valise? Il y a ça, mes premiers échanges de lettres avec Gonce, où il me presse de ne pas étendre mon enquête d'Esterhazy à Dreyfus. Et puis il y a encore ça, dis-je en lui remettant une lettre révélant l'existence d'une enquête sur mon comportement en tant que chef de la section statistique. Louis les lit rapidement avec la plus complète concentration. Lorsqu'il a terminé, il les range de côté et me regarde avec la plus grande gravité. La question que je pose à tous mes clients dès le début, Georges, car au fait, c'est bien ce que tu es maintenant, même si Dieu seul sait si je serai payé un jour. La question que je pose toujours à mes clients est « Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ?»« Je veux que justice soit faite. » Et surtout, je tiens à ce que l'armée sorte de ce scandale avec le moins de dommages possible. J'aime toujours l'armée. Et en ce qui me concerne plus directement, je voudrais qu'on me rende ma carrière. Ne me comprends pas mal, Louis. L'armée n'est pas complètement pourrie. Il y a plein de gens honnêtes et honorables dans le haut commandement. Mais ils feront tous passer l'intérêt de l'armée d'abord. Aucun d'eux n'est prêt à laisser le temple s'effondrer autour d'eux pour sauver un... J'hésite sur le mot. Un juif, suggère Louis, et je ne réponds pas. Louis... Par moments, je me demande s'il ne serait pas moins risqué de tout livrer aux journaux et d'en rester là. « Non, » me répond-il. « Comment appelez-vous ça, vous, les soldats, quand vous contournez l'ennemi plutôt que de l'attaquer de front ?»« Un débordement ?»« Un débordement, oui, c'est cela. Il faut qu'on les déborde. Tu ne dois parler à personne. Ça ne jouerait qu'en leur faveur. Tu dois me laisser faire. Je vais transmettre ton information, mais au lieu de le faire aux journaux ou au camp Dreyfus, je la remettrai à un personnage public d'une intégrité irréprochable, le vice-président du Sénat. Auguste Scheurer-Kessner.
Les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'a été l'affaire Dreyfus. Pendant toute ma prime jeunesse, je n'ai entendu parler que de cela.
Sacha Guitry.
Je vivais chez mon père dans un milieu intellectuel où la neutralité n'était pas admise. Pendant cette longue période, je voyais arriver à la maison, généralement à l'improviste, des hommes comme Anatole France ou Octave Mirbeau, animés chaque fois par un nouveau motif de colère. Tous, ils s'étaient jurés d'arracher Dreyfus des griffes de l'injustice.
Écarté, réformé, traqué et menacé de scandale pour sa relation avec une femme mariée, Picard réussit néanmoins à alerter l'opinion publique en faveur de Dreyfus. Peu à peu, un cercle d'intellectuels et d'artistes s'engage à ses côtés pour la reconnaissance de la vérité. Revenu sur le devant de la scène, notre narrateur a désormais rendez-vous avec les personnalités parisiennes qui vont faire basculer le destin. Son avocat Louis Le Blois est toujours là pour l'accueillir. La rue de Grenelle est à deux pas. Le numéro 11 de la rue de Grenelle est une imposante et vénérable demeure. Je vérifie les deux côtés de la rue pour m'assurer de n'être pas observé et je sonne. Presque aussitôt, la porte s'ouvre et une servante me fait entrer. Derrière elle, Louis attend nerveusement dans le vestibule. Il jette un regard par-dessus mon épaule. « As-tu été suivi ?»« Plus maintenant. » Je donne mon parapluie et mon chapeau à la domestique. Un ronronnement de voix masculine provient de derrière une porte fermée. Louis m'aide à retirer mon manteau. « Tu es sûr que tu veux aller jusqu'au bout ?»« Où sont-ils »« Là-dedans ?» J'ouvre moi-même la porte. 6 hommes en jaquette, ni jeunes ni vieux, se tiennent devant un feu ardent et cessent de parler pour se tourner vers moi. Cela m'évoque un portrait de groupe de Fantin-Latour, l'hommage à Delacroix peut-être. « Messieurs, » annonce Louis, « voici le colonel Picard. » Il y a un instant de silence. Puis l'un des hommes, chauve, avec une grosse moustache tombante et que je reconnais comme étant Georges Clémenceau, homme politique de gauche et éditorialiste au journal radical L'Aurore, lance une salve d'applaudissements à laquelle se joignent tous les autres. Pendant que Louis m'introduit dans la pièce, un autre homme, fringant et séduisant, lance un joyeux « Bravo Picard ! Vive Picard !» Et je le reconnais grâce aux photos de surveillance qui passaient sur mon bureau comme étant Mathieu Dreyfus, le frère du capitaine. En fait, lorsque je m'avance pour serrer les mains de chacun, je m'aperçois que je connais tous ces gens de vue ou de réputation. L'éditeur Jacques Charpentier, qui est le maître des lieux. Arthur Ranc, sénateur à la barbe fournie et doyen de notre assemblée. Joseph Reynac, député juif de la gauche modérée à la Chambre. Et bien sûr, le personnage massif au pince-nez que l'on me présente en dernier, Émile Zola. Un déjeuner copieux est servi dans la salle à manger, mais je passe trop de temps à parler pour avaler grand-chose. Sans révéler la moindre information confidentielle, je leur raconte comment j'ai découvert le véritable traître, Esterhazy, il y a plus de 20 mois, et comment le chef de l'état-major Boisdeffre et surtout le ministre de la guerre Billot, qui a succédé à Mercier, ont au départ soutenu mon enquête, puis ont brusquement changé leur fusil d'épaule en comprenant qu'elle impliquerait de rouvrir l'affaire Dreyfus. Nous arrivons maintenant, messieurs, à cette situation ridicule où l'armée est tellement déterminée à garder un innocent au bagne qu'elle est prête à aider activement le coupable à échapper à la justice et à m'écarter moi aussi, pour de bon si nécessaire.
C'est fantastique, commente Zola. L'histoire la plus incroyable qu'on puisse imaginer. On a honte d'être français, renchérit Ranc.
Clémenceau, qui prend lui aussi des notes, demande sans lever les yeux. « Qui sont d'après vous les officiers supérieurs de la hiérarchie militaire les plus impliqués, colonel Picard ?» Dans le commandement, je citerai les cinq généraux, Mercier, Boisdeffre, Gonse, Billot et Payeux, qui mènent une parodie d'enquête pour tenter d'étouffer l'affaire. « Et que pensez-vous qu'il va vous arriver maintenant, colonel ?» s'enquiert Mathieu Dreyfus. J'allume une cigarette. « J'imagine, réponds-je en secouant l'allumette et en l'éteignant avec toute la nonchalance que je peux affecter, que lorsque Esterhazy aura été officiellement blanchi de toutes les accusations, je serai réformé et ils me jetteront en prison. » Un murmure incrédule parcourt la tablée.
« L'état-major ne peut tout de même pas se montrer aussi stupide, » remarque Clémenceau.
Je crains qu'ils ne se soient acculés eux-mêmes à une position où leur logique ne leur laisse guère d'autre choix. Si Esterhazy est innocent, comme ils sont bien déterminés à le juger afin d'éviter de rouvrir l'affaire Dreyfus, il s'ensuit que la campagne menée contre lui n'est qu'une infâme conspiration. Et comme je porte au bout du compte la responsabilité de cette campagne, je dois être puni.
« Alors, questionne Reynac, que voulez-vous que nous fassions ?»«
Ce n'est pas vraiment à moi de le dire. Je vous ai exposé tout ce que je pouvais sans trahir de secret d'État. Je ne peux moi-même ni écrire d'articles ni publier de livres. Je suis encore soumis à la discipline de l'armée. Ce que je crois, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faudrait que cette affaire soit retirée de la juridiction militaire pour être portée à un niveau supérieur. » Il faudrait rassembler les détails en un tout narratif cohérent afin que tout puisse être vu pour la première fois clairement. Je désigne le Renoir d'un petit signe de la tête puis me tourne vers Zola. Il faut faire de la réalité une œuvre d'art, si vous voulez.
« Colonel, c'est déjà une œuvre d'art, »
retorque-t-il. Il ne manque plus que l'angle d'attaque.
« J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier, de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
Trouver l'angle d'attaque, c'est bien la question qui va se poser à partir de là pour extraire l'affaire des mains des militaires. Le véritable coupable, l'officier Esterhazy, est innocenté en janvier 1898 au terme d'un conseil de guerre clownesque. Avec un rythme haletant, Robert Harris nous fait vivre l'implacable enchaînement des faits qui aboutira enfin à la révision du procès de 1894. Le 3 juin 1899, la Cour de cassation ordonne le retour de Dreyfus après plus de 4 années d'isolement extrême sur l'île du Diable. Le 7 août s'ouvre à Rennes son second procès devant la presse du monde entier. Plus de 300 journalistes sont sur place pendant un mois. Il y a même des caméras du cinématographe installées dans la cour de la prison où Dreyfus réside. La tension monte, l'avocat de Dreyfus, maître Laborie, est même victime d'une tentative d'assassinat. Le verdict tombe le 10 septembre. Alfred Dreyfus est condamné pour haute trahison.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour, je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays.
Notre héros Georges Picard, soupçonné de trahison, a lui aussi connu la prison. Il est désormais usé et atteint par ses années de combat. Dreyfus sera gracié quelques jours plus tard. Il est libre, mais toujours coupable aux yeux de la justice. Il faudra attendre 6 années supplémentaires avant sa réhabilitation le 12 juillet 1906. Concluons avec l'épilogue du roman, l'affrontement, étonnant mais historiquement avéré, entre Alfred Dreyfus et Georges Picard.
Le commandant Dreyfus pour le ministre de la guerre.
Je l'entends s'annoncer lui-même à mon ordonnance au pied de l'escalier de marbre, avec cette voix familière, teintée d'accent germanique. Je prête l'oreille au claquement de ses bottes lorsqu'il gravit les marches, puis lentement je le vois apparaître. Le képi, les épaulettes, les boutons dorés, le galon, l'épée, les bandes de pantalon, la tenue complète d'avant la dégradation, avec en plus le ruban rouge de la Légion d'honneur sur sa tunique noire d'artilleur. Général Picard, commandant Dreyfus, dis-je avec un sourire en lui tendant la main. Je vous attendais, je vous en prie, par ici. Asseyez-vous, commandant, lui dis-je. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes déjà venu ici?
Non, monsieur le ministre.
Il s'assoit très raide sur une chaise dorée. Je prends place juste en face. Il a repris du poids et paraît en forme, presque soigné dans son uniforme impeccablement coupé. Les yeux pâles restent prudents derrière le pince-nez familier. « Alors, » dis-je en joignant le bout des doigts et en le fixant longuement du regard, « de quoi vouliez-vous me parler ?»«
Cela concerne mon grade, » dit-il. La promotion qui m'a été accordée de capitaine à commandant ne prend pas en compte les années que j'ai passées emprisonné à tort sur l'île du diable. Tandis que votre promotion, si vous me permettez de le faire remarquer, de lieutenant-colonel à général de brigade, vous crédite de 8 années de service alors que vous n'y étiez pas. Je trouve cela injuste. Partial, en fait. Je vois, dis-je, sentant mon sourire se crisper. Et que voudriez-vous que je fasse ? Rectifier la chose ? Me hisser au grade que j'aurais dû atteindre ? Qui aurait dû être, selon vous, lieutenant-colonel ? Mais, objectai-je après un silence, cela exigerait une législation spéciale, commandant. Le gouvernement devrait passer par la Chambre et déposer une nouvelle motion. Il faut le faire, ce serait juste. Non, c'est impossible. Puis-je vous demander pourquoi ? Parce que, répliquai-je exaspéré, c'est politiquement impossible. La motion a été votée en juillet, à un moment où l'opinion vous a été très majoritairement favorable parce que c'était le jour de votre acquittement. Nous sommes en novembre, c'est très différent. Et puis ma mission est déjà assez difficile comme ça, et je suis sûr que vous pouvez le comprendre, alors que je reviens dans les bureaux de la guerre et que j'essaie de travailler avec tous les officiers qui sont restés si longtemps mes ennemis déclarés. Je dois chaque jour ravaler ma colère et enterrer les batailles du passé. Comment voulez-vous que je me retrouve devant eux en rouvrant de nouveau toute la controverse ? Parce que ce ne serait que justice. Je regrette, Dreyfus, c'est tout simplement impossible. Je dois vous dire que je regrette, commandant, que nous n'ayons jamais eu l'occasion de nous voir seul à seul avant aujourd'hui, dis-je prudemment. Non, pas depuis le matin de mon arrestation, quand vous m'avez conduit dans votre bureau avant de m'emmener voir le colonel Dupaty. Je me sens rougir. Oui, je m'excuse pour le rôle que j'ai tenu dans cette lugubre mascarade. Oh, je crois que vous vous êtes fait pardonner. Dreyfus regarde autour de lui et hoche la tête d'un air appréciatif. C'est formidable que vous ayez pu faire tout ça et qu'au bout du compte, vous vous retrouviez nommé au cabinet de la République française. Mais le plus incroyable, vous savez, c'est que je n'y serais jamais arrivé sans vous. Non, mon général, réplique Dreyfus. Vous y êtes arrivé parce que vous avez fait votre devoir.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Gaël Braouezek, préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Merci à vous, Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal, soit rediffusé cette nuit sur France Inter entre 2h et 3h du matin.